nous recevons aujourd'hui Laure Fourtage, historienne, à l'occasion de l'exposition « Après la Shoah, rescapés, réfugiés, survivants, 1944-1947 », que l'on peut voir jusqu'au 30 octobre 2016 au Mémorial de la Shoah à Paris. Alors, vous faites partie, Laure Fourtage, du commissariat scientifique de cette exposition, dirigée par Henri Rousseau. Une exposition qui a choisi un angle bien particulier, celui de l'après-Shoah. Mais en ouvrant cette séquence que l'on limite bien souvent à l'ouverture des camps, en 1944-1945, en l'ouvrant donc jusqu'en 1947, à la veille de l'indépendance d'Israël. L'autre spécificité, c'est que vous avez choisi de vous intéresser au destin de ces Juifs survivants à l'échelle européenne, en vous concentrant particulièrement sur la Pologne, l'Allemagne et la France, ce qui vous permet de retracer des parcours qui nous mèneront de l'URSS jusqu'à l'Australie, ainsi que l'immigration clandestine vers Israël. Alors, cette exposition est composée d'objets ayant appartenu à des Juifs rescapés, mais surtout de photographies et de nombreux films d'archives. Elle démarre avec une cartographie qui nous permet de prendre la mesure des impressionnants mouvements de populations qui ont eu lieu dans l'immédiate après-guerre, prisonniers des guerres, travailleurs du STO, réfugiés civils, soit environ 40 millions de personnes, dont seulement 1,7 million de survivants juifs pour lesquels vous employez la terminologie de rescapés, réservant le mot de survivant à ceux qui ont été libérés des camps et qui ne sont que 60 000. Alors, avec cette exposition, vous avez voulu revenir sur le sort de ces juifs à la sortie du génocide et les accompagner tout au long des différentes étapes de leur reconstruction.
Oui, c'est ça. Bonjour déjà, merci de m'avoir invitée. Alors, permettez-moi déjà pour commencer de nommer aussi les autres membres du commissariat scientifique qui sont Julia Maspero, Constance Paris de Bollardière, Simon Perrego, et puis nous avons aussi reçu l'aide de Johanna Linsler qui nous ont beaucoup aidés dans cette exposition. Donc l'exposition est consacrée effectivement à cette question de la sortie du génocide qui s'est faite lentement, progressivement, de manière chaotique, tout comme l'a été d'ailleurs la sortie de guerre dans laquelle elle s'inscrit. Comme vous l'avez justement mentionné, on n'a pas voulu justement se limiter à cette question de la libération des camps et de la libération des déportés qui, quelque part, finalement, ne correspondait pas à la réalité de la composition des survivants de la Shoah, puisque une infime minorité des déportés juifs qui donc ont vécu cette déportation et a survécu. Et donc, cela ne traduisait pas cette variété de situations qui a existé pendant la guerre et que l'on retrouve à la fin de la guerre. Et justement, comme vous le dites, on a choisi de se focaliser sur trois pays dans cette Europe. D'abord, donc, comme vous l'avez mentionné, la Pologne. La Pologne qui était avant la guerre le pays avec la plus forte population juive, près de 3 300 000 juifs vivaient en Pologne en 1939, et qui, à la sortie de la guerre, n'en contient plus que 300 000 à peu près, donc 90% de la population juive a été assassinée. Et malheureusement, on peut le dire comme ça, la plupart de ces rescapés, la moitié pratiquement de ces rescapés, dans l'immédiate après-guerre, va quitter encore ce pays, va le fuir en général, en raison de l'antisémitisme persistant dans ce pays. Un antisémitisme qui va prendre différentes formes, que ce soit l'impossibilité pour les rescapés de récupérer leur logement, leurs biens, leurs meubles, leurs magasins aussi, puisque les nouveaux propriétaires refusent de leur rendre. Ça peut aller donc de ce cas-là, de cette forme-là, à des violences extrêmes, des pogroms qui culminent justement avec le pogrom de Kielce en Pologne en juillet 1946. Et donc ces rescapés vont fuir, vont traverser l'Europe. En général, ils passent par l'Allemagne qui est le deuxième pays aussi sur lequel nous portons notre attention. L'Allemagne qui, finalement, dans ce pays, la population juive va retrouver sa liberté, va retrouver ses droits, mais qui, paradoxalement, alors que c'était le pays où de la source du crime, des massacres, paradoxalement va devenir un lieu de refuge, une terre d'accueil pour ces milliers de rescapés qui ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine, que ce soit la Pologne, mais ça peut être aussi, je pense, à la Hongrie ou la Roumanie, où il y a aussi beaucoup de violences antisémites qui ont lieu dans ces pays après la guerre. Et donc, en Allemagne, comme vous l'avez souligné, à peu près à l'été 1945, une fois que la plupart des rapatriements ont eu lieu, que c'est les prisonniers de guerre, les travailleurs forcés, les survivants des camps se retournent chez eux, on a quelques 250 000 juifs qui restent en Allemagne, en Autriche, en Italie aussi, dans des camps qui s'ouvrent pour eux, des camps on appelle des camps de personnes déplacées, puisque ces personnes vont bénéficier d'un nouveau statut qui est le statut de personnes déplacées après la guerre. Et donc ces personnes vont souvent ensuite passer par d'autres pays de l'Europe occidentale, ça peut être la Belgique, ça peut être, donc j'ai cité aussi l'Italie, mais la France, qui est le troisième pays sur lequel nous portons notre attention. La France, pays qui, contrairement à la Pologne, a pu conserver la majeure partie de sa population juive, 75% ont survécu. La plupart aussi des ces rescapés restent restent en France, reconstruisent leur vie en France. Mais la France, qui va voir affluer sur son territoire dans les premières années de l'après-guerre, plus de 40 000 réfugiés juifs, du coup originaires d'Europe centrale et orientale, puisque la France se trouve naturellement sur le chemin de ces réfugiés qui désirent ensuite, en général, quitter l'Europe et partir s'installer dans des pays tels que les États-Unis, le Canada, l'Australie et puis bien entendu la Palestine. Et donc ils rejoignent les ports français de la Méditerranée pour ensuite tenter de trouver un nouveau pays pour refaire leur vie dans ces pays-là.
Alors ce qui est très surprenant et ce qui est très éloquent de l'exposition, c'est que finalement ces rescapés se retrouvent pris dans le flot donc de ces 40 millions de personnes qui se retrouvent sur les routes au lendemain de la guerre. Et finalement, assez vite, la question s'est posée de créer, dans ce contexte quand même très particulier, de créer des camps de DPs, de personnes déplacées, exclusivement réservés aux Juifs.
Oui, tout à fait. Alors, Julia Maspero, ma collègue, vous en parlerez certainement mieux que moi, puisqu'elle est spécialiste de ces questions, justement, des personnes déplacées, en anglais, displaced persons, DPs, qu'on appelle souvent les DPs, pour lesquelles, effectivement, assez rapidement, l'été 1945, suite au rapport Harrison, qui fait état de mauvaises conditions de vie dans les différents lieux où se trouvent ces rescapés juifs, va se mettre en place, surtout en zone américaine d'occupation en Allemagne, des camps spécifiquement dédiés, des camps mais qui, derrière le terme camp, toute une réalité différente de lieux existe en fait, puisque dans notre imaginaire, les camps, ce sont des baraques clôturées, fermées, avec des fils barbelés, etc. Ça peut être des villages qui sont réquisitionnés, des villages allemands qui sont réquisitionnés. Ça peut être aussi prendre la forme de kibbutz, des organisations sionistes qui sont très présentes en Allemagne occupée par les Alliés, mettre en place des kibbutz pour justement préparer ces rescapés à une prochaine nouvelle vie, donc en Palestine. Et donc vont se mettre en place justement des lieux spécifiquement dédiés aux rescapés juifs pour leur permettre de vivre un peu mieux, si je puis dire, cette attente qui va durer des fois quelques mois, des fois plusieurs années avant de pouvoir émigrer dans un nouveau lieu.
Et pour leur épargner aussi la promiscuité peut-être avec d'anciens nazis qui fuient également.
Exactement. Ils pouvaient retrouver, jusqu'à ce que ces lieux spécifiques soient mis en place, ils pouvaient se retrouver en présence d'anciens capots, d'anciens nazis qui les avaient maltraités pendant la guerre.
Alors très vite, la question de l'aide et de l'entraide va se poser de manière cruciale. Alors vous êtes leur Fourtage spécialiste de ce sujet. Sur quel champ elles vont intervenir dans l'immédiate après-guerre, ces associations d'entraide juive?
J'ai envie de dire sur tous les champs. Puisque à la fin de la guerre, la grande majorité des rescapés se trouvent dans un dénuement total, dans une détresse sociale, sanitaire, matérielle immense. Et donc, ils ont d'énormes besoins et des besoins très variés, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan matériel. Et même sur le plan culturel, puisque effectivement ils n'ont plus rien, ils ont été dépossédés de tous leurs biens, et ils ont subi l'espoliation, ils ont subi des lois d'expulsion aussi professionnelles, donc ils se retrouvent sans argent, sans biens, souvent aussi sans proches, sans famille sur lesquelles ils pourraient s'appuyer pour se reconstruire. Et donc c'est cette aide des organismes en majorité juive, cette aide va être essentielle, va être indispensable pour leur permettre de reprendre pied et leur offrir toute une palette de soins et d'aides dont ils ont besoin.
Et quelles sont celles qui agissent le plus pour les rescapés ?
Alors, déjà parlons des grandes organisations qui vont financer cette aide. Et en fait, il s'agit en particulier de l'American Jewish Joint Distribution Committee, qui est une organisation juive américaine philanthropique qui a été fondée pendant la Première Guerre mondiale et donc qui a déjà une grande expérience dans l'assistance aux populations juives à l'étranger. Puisqu'elle a aidé déjà tous les réfugiés juifs qui arrivaient notamment en France dans l'entre-deux-guerres dans les années 30, qui fuyaient le nazisme, qui fuyaient donc l'Allemagne, l'Autriche, la Tchécoslovaquie. Et pendant la guerre, le Joint a aussi, donc le Joint c'est l'abréviation hein, pour cette organisation, a aussi financé en grande partie la résistance juive en Europe. Et donc après la guerre, elle va continuer de poursuivre cette action d'aide en distribuant des secours, des vêtements, des médicaments, mais aussi, surtout, en finançant les organisations locales qui se trouvent en France, en Allemagne, en Pologne, dans les différents pays européens et qui participent à cette reconstruction du judaïsme européen. Et donc, elle va, c'est vraiment la principale source de financement vient du Joint.
Quelle est sa philosophie au Joint ? Je veux dire, est-ce qu'il y a des actions qu'ils vont privilégier en priorité ?
Alors oui, effectivement, l'une des actions, c'est l'aide à l'enfance. L'aide à l'enfance juive, puisque beaucoup d'enfants juifs ont été touchés par les persécutions. Les enfants représentent l'avenir du judaïsme européen. Les enfants ont beaucoup souffert, donc ils ont besoin d'une grande attention. Mais aussi, il y a une partie qui les intéresse énormément, c'est la reconstruction culturelle, spirituelle. Donc ils vont aussi donner dans les camps de personnes déplacées, justement, ils vont offrir beaucoup de livres de prières, de support pour pouvoir pratiquer sa culture, puisque comme je vous l'ai dit, les survivants n'ont plus rien. Et puis il y a aussi une aide énorme en faveur des réfugiés, ces réfugiés juifs qui n'ont plus rien, et surtout... pour lesquels les différents gouvernements, les différentes autorités, et je pense notamment à la France, espèrent vivement que ce soit les organisations juives qui prennent en charge ces personnes. Les autorités françaises vont accepter, à partir de l'été 1946, de les accueillir temporairement sur le territoire français. Ils vont mettre en place des quotas, mais pour leur permettre de sortir de ces camps de personnes déplacées et quelque part de faire un pas vers leur future installation dans un nouveau pays. Mais les autorités françaises mettent cette politique de transit en place à condition que les organisations juives s'occupent de leur entretien pendant leur séjour temporaire en France, que ce soit pris en charge par les organisations juives.
Et parmi ces organisations, est-ce que ça va être les mêmes, par exemple, on peut penser à l'OSE qui s'est occupé des enfants, qui vont s'occuper des personnes qui reviennent en France et qui, pour beaucoup, ont aussi besoin d'aide pour se reconstruire, et puis ceux qui sont tout simplement de passage, donc dans ces camps de personnes déplacées, ça va être le même type d'aide, les mêmes organisations ?
Excusez-moi. Oui, ça va être les mêmes, ce seront les mêmes organisations. Donc en fait... Par exemple, je pense à l'ORT pour la question de la réinsertion professionnelle. L'ORT est une organisation mondiale qui a des réseaux dans le monde. Et donc, l'ORT va agir autant en France, en Allemagne qu'en Pologne après la guerre, en vue d'aider ces populations capables de travailler à retrouver une activité professionnelle et se réinsérer dans un pays, que ce soit un pays européen ou un pays extra-européen. Mais les aides, que ce soit pour les réfugiés ou pour les personnes qui vont décider de rester dans ces différents pays, vont être un peu différentes. C'est-à-dire que l'accent va être mis sur l'aide aux réfugiés parce que les réfugiés, en tant qu'étrangers, en général, ne bénéficient d'aucune aide publique. Alors que les personnes, je pense en France, les déportés qui rentrent bénéficient de la politique d'aide gouvernementale à l'égard de tous les déportés. Par exemple. Donc ils peuvent bénéficier d'une aide gouvernementale. Souvent, je vous le concède, souvent cette aide, elle est insuffisante ou elle n'est pas suffisamment appropriée aux besoins des rescapés juifs. Donc l'aide des organisations juives et reste indispensable. Voilà. Mais c'est, les organisations, on retrouve effectivement les mêmes dans les différents pays en général. Après, il y a des organisations typiquement locales, je pense au COJASOR, Comité juif d'action sociale de reconstruction, qui se crée en mars 1945 en France, qui est la grande organisation juive d'assistance à l'égard des rescapés et qui, elle, n'agit qu'en France. C'est une organisation juive française, mais qui va bénéficier, bien entendu, des financements du Joint que j'ai cité tout à l'heure et qui va mener une action à la fois en faveur des rescapés qui souhaitent s'installer en France, qu'en faveur des réfugiés juifs qui arrivent en France et qui vont repartir quelques mois après ou quelques années après pour s'installer ailleurs.
Et donc dans ces camps de personnes déplacées, on va trouver les organisations type Croix-Rouge, ce genre d'organisation peut être présent aussi, et puis l'OSE, toutes ces organisations qu'on connaît, qu'on a connues déjà pendant la guerre, qui sont déjà venues en aide, notamment aux enfants.
Exactement, on trouve effectivement, comme je dis, pas que des organisations juives, c'est vrai. Surtout en Allemagne, il y avait une grande organisation qui s'appelle l'UNRWA, qui a été mise en place pendant la Deuxième Guerre mondiale, déjà en vue d'aider les rescapés à la fin de la guerre, et d'aider pas seulement les rescapés juifs, mais en particulier les rescapés juifs. Une collaboration aussi avec la Croix-Rouge internationale, qui va aussi fournir des colis alimentaires, des soins médicaux, des soins, etc. Et toutes ces organisations fonctionnent en coopération. Il y a une vraie coopération qui se met en place pour aider les rescapés juifs à ce moment-là. Mais c'est vrai que la majeure partie de l'assistance qui est fournie aux rescapés juifs vient de la communauté juive et en particulier du financement des organisations juives américaines.
Est-ce qu'on comprend à l'époque la nature des traumatismes des survivants, qu'il s'agisse des déportés ou des enfants qui mettent parfois du temps à comprendre qu'ils sont orphelins ?
Alors, on trouve de tout, j'ai envie de dire, au sein des organismes juifs d'assistance. Et on trouve effectivement, surtout au sein de l'œuvre de secours aux enfants, un personnel qui a pu saisir les difficultés émotionnelles, les problèmes comportementaux que présentaient les enfants ou les rescapés des camps, et faire le lien très vite avec les persécutions qu'ils avaient subies pendant la guerre. Je pense notamment à une figure de l'OSE qui est Eugène Mikoski, qui était donc déjà en France avant la Deuxième Guerre mondiale, et qui était déjà naturalisé français après avoir participé à la Première Guerre mondiale, qui était un psychologue, et qui a profité de ses fonctions qu'il avait au sein de l'OSE comme membre de la direction pour pouvoir observer justement ses enfants, observer ses rescapés des camps et essayer de les aider. Il a fait preuve d'une grande compréhension et d'une grande bienveillance à leur égard. Il a d'ailleurs très tôt publié un petit livre et même des articles dès 1946 qui s'appelle L'anesthésie affective en 1946, où il a mis un mot, un terme sur ces troubles comportementaux et émotionnels. L'anesthésie affective, c'est comme une forme d'engourdissement, des difficultés à pouvoir réagir, entre guillemets, normalement face à des événements. Et lui et d'autres au sein de l'OSE ont perçu très tôt, donc sont très précoces, dans la perception de ces difficultés, de ces traumatismes, et qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. J'ai aussi trouvé dans la consultation des archives, quand j'ai consulté les archives, le cas de personnel de ces organisations d'assistance qui reprochait justement à ses enfants, à ses rescapés, de se montrer ingrats, de ne pas montrer suffisamment de reconnaissance à l'égard de l'aide qu'ils recevaient, tout simplement parce qu'ils n'ont pas bien compris et bien perçu, je pense, le traumatisme qu'avaient vécu ces personnes pendant la guerre.
Alors il y a aussi, l'exposition le montre, un autre aspect de cette aide, et dont vous nous avez déjà parlé, leur fourrage. Il y a les kibboutzim, donc, qui ont été créés en Allemagne pour apprendre aux survivants l'agriculture, ou en France, les formations professionnelles de l'ORT, donc l'Organisation Reconstruction Travail. À quel point la remise au travail des déportés a été prioritaire pour l'action sociale ?
Elle est devenue prioritaire très tôt, puisqu'en fait, dans l'immédiate après-guerre, donc dès la sortie de la guerre, on assiste à un changement une évolution dans la conception de l'assistance juive après la guerre, qui cherche à se détacher de l'assistance telle qu'elle a pu être prodiguée avant la Seconde Guerre mondiale, et c'est-à-dire se détacher de ce qu'ils appelaient donc la charité, la bienfaisance, et l'idée était à cette époque-là de donner une petite somme d'argent ponctuellement, sans vraiment s'attaquer aux sources du problème pour les personnes en difficulté, alors que là, l'idée était justement de les accompagner, de les aider, de leur fournir quand même une aide matérielle, donc vestimentaire, alimentaire, etc., mais pour soutenir les accompagner dans cette voie vers l'indépendance par le travail. Donc il y a cette évolution des mentalités au sein de l'assistance juive qui affleure donc à la sortie de la guerre, mais il y a aussi un autre problème qui se pose à ces organisations, c'est le problème du financement de cette assistance qui est extrêmement coûteuse puisqu'elle touche des milliers et des milliers de rescapés, et parmi ces milliers de rescapés qui sont aidés, beaucoup finalement sont capables de travailler. Ils sont en âge, ils n'ont pas de problème physique pour se remettre au travail, mais simplement ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont été privés de tous leurs outils de travail, de leur profession, et que la priorité pour eux à la sortie de la guerre, c'est déjà de pouvoir subvenir aux besoins vitaux de se nourrir, se vêtir, etc. Et donc du coup, ils sont à la charge de ces organisations pendant très longtemps, et les organisations vont devoir trouver un moyen de réduire leurs dépenses, d'autant plus qu'à la fin de la période que nous évoquons dans l'exposition, 1947, on pourrait dire 1948, le Joint va commencer à réduire ses financements. Et donc il faut trouver un moyen de permettre à ces personnes de subvenir à leurs besoins par eux-mêmes, et donc la solution qui est trouvée, c'est le travail. N'oublions pas non plus qu'à cette époque-là, on est dans une période de reconstruction. L'Europe est dans une phase de reconstruction, donc elle a besoin d'une main-d'œuvre importante, surtout dans les métiers manuels. Et donc c'est pour cela que ces organismes vont souvent orienter les personnes qui sont aidées vers des métiers manuels pour pouvoir se réinsérer rapidement.
Alors l'exposition se termine sur le parcours de cinq juifs survivants, dont certains sont familiers à nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Charles Finkel, par exemple, fait partie de ces...
Alors Charles Finkel, que j'ai rencontré aussi dans le cadre de ma thèse, lui, donc, il est originaire de Pologne, d'un petit shtetl en Pologne. Et il a été avec toute sa famille, a été pendant la guerre déporté. Il est passé par plusieurs camps. Et à la libération, donc lui, sa libération, elle se fait... En avril 1945, il est libéré de Buchenwald avec son frère. Et donc, très vite, il va se rendre compte qu'il ne reste plus que lui et son frère Jacques à Buchenwald. Et donc, une opportunité va s'ouvrir à lui, puisqu'il va faire partie de ces quelques 400 enfants juifs qui vont être, rapatriés, accueillis en tout cas sur le territoire français au mois de juin 1945, et pris en charge par l'OSE, par l'œuvre de secours aux enfants. Son objectif, quand il arrive en France, ce n'est pas de rester en France. Comme la plupart des réfugiés dont je vous ai parlé, quand ils arrivent en France, c'est de continuer leur route, de partir s'installer ailleurs. Et pour lui, c'est la Palestine. Et d'ailleurs, il va essayer de partir en Palestine. Il fera partie des passagers du navire qui est connu, en fait, l'Exodus, l'affaire de l'Exodus en 1947. Et finalement, qui sera arraisonné par les Britanniques et qui sera, je vais passer sur les détails de cette épopée, mais tous les passagers retournent donc finalement, où ça, en Allemagne, là où ils ont commencé l'horreur pour eux. Donc ils arrivent en Allemagne et finalement il réussit à revenir en France avec son frère. Ils vont rester en France puisque son frère est trop jeune pour pouvoir aller en Palestine, qui est devenu l'État d'Israël à ce moment-là. Il reste en France, il s'installe en France, il refond une famille en France. Il passe aussi par l'Orte pour suivre une formation en mécanique. Et finalement, c'est en France qu'ils resteront jusqu'à aujourd'hui.
Je vous remercie beaucoup, Laure Fourtage, d'être venue. Je rappelle que l'exposition « Après la Shoah, rescapés, réfugiés, survivants, 1944-1947 » se tient actuellement au Mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au 30 octobre 2016. Elle est accompagnée de toute une série de rencontres, en particulier aujourd'hui même à 14h, une rencontre sur la Pologne d'après-guerre avec Yann Gross et Jean-Charles Chourek. qui sont donc les grands spécialistes de cette histoire, une rencontre sur les Dippies et les survivants en Allemagne le dimanche 14 février, et pour la France, une rencontre jeudi prochain 11 février avec vous, Laure Fourtage, pour parler du SCDI, le Service Central des Déportés Israélites. C'était Mémoire Vive, vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.